c'est la bande originale. Soyez les bienvenus. Bonjour, Leïla Kadourdadi. Bonjour, Daniel Morin. Bonjour. Bonjour, toute la bande. Bienvenue. On est ravis de vous retrouver. C'est la semaine de vacances scolaires, un peu aussi pour nous. C'est la semaine de vacances. Donc, sélection des meilleures émissions, le must, comme on dit, de la bande originale en anglais dans le texte. Voilà, exactement. Ça, c'est en anglais. En slang. Ce matin, voyage dans le grand monde de Paris, direction Saigon, en passant par le Liban, dans les pas et surtout les mots de Pierre Lemaître.
Ça sent bon les colonies, j'adore.
Exactement. Pierre Lemaître est notre invité jusqu'à midi et demi. Avec Le Grand Monde, son nouveau roman, début d'une nouvelle trilogie. On va parler avec lui de ce masterpiece chez Calman Lévy. C'est absolument
pages,
passionnant. Il y en a 600, mais c'est passionnant. On s'en rend pas compte, en tout cas, visiblement toi, oui.
Non,
on s'en rend pas compte. Non, c'est tellement bien écrit. Et encore une fois, passionnant de rentrer comme ça dans cette saga familiale. On va en parler avec lui, mais quel blind test, les amis.
Daniel.
Oui.
Téléphone.
Ben alors. Un autre monde pour le grand monde. Je vais me poser la question de savoir quel est le thème.
Autre.
C'est ça.
Ça sent les Words Apart.
C'était quoi les Words Apart?
Bah, Words, Words.
C'était un boys band de l'époque. Vous n'avez pas connu ça, vous aimez la musique.
Worlds.
Ah, c'était Worlds, je croyais que c'était Worlds, je croyais que c'était les mots.
Non, ah non,
c'était
pas
le monde.
Du tout, c'était les mots.
Ah, d'accord, ok.
Bah oui. Même le jeu de mots était raté.
Tout était raté. C'est ma culture qui est ratée.
Ils étaient bien coiffés.
Qui chante ça?
Catherine Lara?
Non. Morgan?
Ouais.
Ophélie Winter?
Non.
Tanguy, Nadia?
Non.
Tanguy,
Morgan?
Lame.
Morgan, non. Céline Dion?
Oui. Ah, Céline Dion, d'accord. Je cherchais une petite chanteuse à la con. Moi.
C'est pour toi, Leïla.
Big up. Ça va, elle va
bien. Hein. Tu nous entends là où tu es.
Elle va bien. C'est pas la peine de faire un bisou en regardant le ciel. Non plus, hein.
C'est surtout en écoutant dans un autre monde.
Voilà.
Arrêtez.
On est vendredi, elle est au ski, là.
Qui chante ça? Je peux vous dire que Leïla aurait trouvé...
Morgan, ça. C'est Fesha Tartan.
Exactement.
Ah, mon nouveau.
Bisous, Leïla.
Elle aime bien?
Ouais.
Ah ouais?
Parti trop vite.
Petit ange,
trop vite, quoi.
Je connais pas trop.
Petite Fesha Tartan, c'est vachement
bien. Non, pas trop.
C'est vachement bien.
Mais j'ai du mal avec les moustaches. Le monsieur a une moustache.
C'est Village People.
J'ai du mal avec les moustaches.
Ouais, ça me gêne.
Donc, même pas de luxe non plus.
Cara Morgan non plus, alors.
Non.
Qui chante ça?
Tanguy.
Oui.
Tout le monde y pense. Cabrel.
Oui.
Mais il n'y a pas monde, alors.
Et il n'y a pas de moustache, lui.
Ah si, il avait une moustache, mais il ne l'a plus. Je l'ai apprécié à partir du moment où il s'est rasé.
Ouais. La brésilienne.
D'amour.
Je me trompe ou c'est ton premier point, Tanguy?
Mais oui.
Mais un point pour Daniel, un point pour Tanguy, deux pour Morgane. Alexis, c'est ton moment.
Daniel, Renaud?
Non.
Je crois qu'il faut attendre un peu.
Non, physiquement, vous ressemblez un peu.
À qui?
Avec ce monsieur?
Michou?
Tanguy?
Oui.
Hervé?
Oui.
Ah ouais? Vous trouvez?
C'est le physique qui
m'en ressemble. Mais il faut que tu bouges un peu plus, quoi, parce que Hervé danse. Qui brûle à
l'intérieur. Et plus que danser, Hervé.
Ça s'appelle Monde Meilleur.
Ça fait drôle de voir Alexis bouger.
Ouais, ce qui fait drôle, c'est de voir bouger sur une danse.
Il fait du rab.
C'est ça. Le mec, il est carrément.
Une danse du ventre.
Ah oui, une danse du ventre sur Hervé. Il manquait plus que le tagine et on y était.
On peut y être à midi. Hein,
qui chante ça?
Tanguy.
Oui.
M, bien sûr.
Oui.
Mais
je cherche la même. Trop rapide.
Qu'est-ce qui devient? Non, sérieusement.
N maintenant.
Hein?
Il a avancé d'une lettre.
Elle est très bête, mais j'aime beaucoup.
Ouais. Je vais la refaire dans le papier, tiens.
Alors, il y a forcément monde dans le titre. Pour l'instant, un point pour Daniel, deux pour Morgane, trois pour Tanguy.
C'est le super banco.
C'est le super banco. Cela rapporte 4 points et donc la victoire.
Daniel,
il y a monde dans le titre. Led Zeppelin, il y a monde dans le titre.
Oh putain, je connais ça.
Ouais.
Moi non.
Morgan, Orelsan?
Oui.
Bravo.
Oh. seul avec du monde autour. Et c'est la victoire de Morgane Gadignan. Et merci d'accueillir Monsieur Pierre Lemaitre.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Seul avec du monde autour, c'est le titre de cette dernière chanson. Ça pourrait aussi être l'un des sous-titres des personnages de votre roman. Pierre Lemaitre, merci de venir à ce micro en mettant, oui, le masque, en effet. Et on n'en est pas sorti. Le grand monde chez Calman Lévy. Oui, je disais, seul au milieu, seul avec du monde autour. On a le sentiment que ça foisonne, qu'il y a du monde dans cette famille Pelletier, qu'ils sont eux-mêmes chacun dans un bout de la société, mais qu'ils sont un peu seuls dans leur monde, seuls au monde avec leurs problèmes. C'est à la fois une saga familiale, comme vous savez les faire, à la fois un portrait aussi, une photo de la société au moment où elle a lieu, et puis évidemment un formidable thriller, j'ai même envie de dire plusieurs thrillers, parce que chacun a son épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête.
Oui, au moment où le roman commence, d'abord merci de votre accueil.
Avec plaisir.
Au moment où le roman commence, c'est un moment de crise pour toutes les familles. C'est le moment où, lorsque les enfants ne sont pas trop éloignés du point de vue de l'âge, tous vont partir en quelques années, c'est comme une volée de moineaux. Et c'est un moment difficile à la fois pour les parents, bien sûr, mais aussi pour les enfants qui sont jetés dans le grand monde, d'où le titre du livre, et qui partent chacun avec leurs espoirs, leurs attentes, et qui vont tomber dans une période qui suit directement l'après-guerre. Oui, on est dans l'après-guerre, et ces 30 glorieuses ne sont pas encore celles qu'on va connaître dans les années 60, une période de plein emploi, une période d'ascenseur social qui fonctionnait bien. C'est une période très difficile, très âpre, et au fond, leurs ambitions vont se coup buter contre la réalité sociale.
Et puis on est dans une famille bourgeoise plutôt successful, on est à Beyrouth, la famille Pelletier a une savonnerie qui fonctionne parfaitement bien et qui rapporte beaucoup d'argent, mais il y a aussi le problème de la succession, c'est-à-dire qu'il y a trois garçons et une fille, qui va s'occuper, qui va prendre, est-ce que c'est l'aîné dans une espèce de réflexe, et d'ailleurs il va avoir les clés de la boutique pendant un certain temps, mais il va falloir que le père s'en occupe, parce que finalement, sans le père, on a l'impression que personne ne peut se débrouiller.
Alors, il y a deux choses dans votre question. D'abord, c'est vrai que sans le père...
Souvent. Souvent, il y a deux choses, ou souvent le père, sans le père, on peut pas s'en débrouiller.
Il y a deux choses. C'est effectivement, le père, même quand les enfants sont partis, ça reste quand même, ça reste quand même l'instance qui peut continuer de nous protéger, même à distance, enfin, dans l'esprit de beaucoup d'enfants qui partent, ils sont quand même contents que les parents, quelque part, soient là.
On peut compter sur lui.
Et puis, on est dans ces 30 glorieuses, là, donc, au début de ce qu'on appellera le 20e siècle moderne, dans cette première période où, il va y avoir un changement fondamental. Les enfants ne reprennent plus forcément le travail de leurs parents. Les filles choisissent leur mari et ne subissent pas les injonctions parentales. Non, mais vous comprenez, jusqu'à la Seconde Guerre, les filles n'étaient pas si libres que ça de choisir leur mari. À partir des années 50, ça y est, la messe est dite. Donc en fait, la famille Pelletier se trouve à un carrefour de la modernité. Les enfants sont modernes par définition puisqu'ils sont plus jeunes. Les parents, eux, sont encore sur des schémas un petit peu anciens, d'où cette question de la savonnerie. Qui va la reprendre? Le pauvre Jean qui va essayer de le faire va se trouver dans des situations compliquées parce qu'il n'est absolument pas fait pour ça.
Et la protection des parents, surtout paternelle en l'occurrence, même si la maman a un rôle très 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 important, et comme encore une fois il y a beaucoup de suspense et de thriller, je vais me débrouiller pour même avec deux questions...
Avec deux
questions en une question, de ne pas tout dévoiler, mais ne mettons pas trop rapidement en tout cas la mère de côté dans la famille Pelletier. Elle a aussi son rôle, son regard. Et puis, comme dans toutes les familles, on se pose des questions sur qui est le préféré. Est-ce que le grand est forcément celui qui va hériter de tout en termes de business, en termes d'argent? Est-ce que la dernière, la petite, la fille tant attendue après trois garçons, est celle à qui on va tout laisser passer? Est-ce que les parents s'occupent de la sexualité des enfants? Est-ce que les enfants connaissent réellement la vie passée des parents? Toutes ces questions flotte et nous accompagne tout au long du roman.
Oui, alors vous avez très bien résumé, ces questions flottent, et puis la famille va aux trois quarts du livre, deux tiers, trois quarts, assez tardivement, se retrouver d'un seul coup convoqué au banc de l'histoire.
Vous en dites beaucoup,
je l'ai écrit, je le connais le livre.
Oui, mais d'accord.
Non, je peux le dire comme ça. C'est que, comme toutes les familles, il y a un secret de famille.
Voilà.
Dans toutes les familles...
C'est pour ça que je parlais du passé, on est...
Non, je sens votre prudence, elle est vertueuse. choses. C'est pas ça, c'est que j'ai tellement aimé vous lire, j'ai tellement aimé les passages d'un état noir, un état blanc, enfin d'un flash immédiat où on se dit, mais waouh, en une phrase, comme dans un film, comme dans un flash, alors que dans les romans on nous prépare, on arrive, on se dit ok, là il peut peut-être se passer ça, en une ligne on se prend une gifle de suspense passionnante. Et donc c'est vrai qu'en le lisant, je me dis, donc c'est impossible à raconter.
Oui, c'est difficile, c'est vrai. Le livre idéal, vous savez Nagui, ce serait un livre qui serait impossible de raconter, parce que les premiers rebondissements commenceraient
Bible, déjà,
aux premières pages. Ça serait vraiment le roman idéal.
Mais on a failli vous annuler, vous savez, hein, parce que
c'est vrai.
On s'est dit, ce serait mieux s'il venait pas.
Et ce qui est intéressant, justement, c'est que dès l'instant où cette famille explose comme ça, parce que le roman se poursuit sur à peu près 9 mois de gestation,
oui, c'est
on va
ça.
Dire.
Hein. Oui, oui.
Dès l'instant où la famille explose, déjà géographiquement elle explose, le point de départ étant Beyrouth, il se retrouve un peu partout sur notre planète, les contacts ne sont pas les mêmes, l'époque évidemment fait qu'on a soit quelques phrases très très courtes par des télégrammes, soit, et qui arrivent tout de suite sans trop comprendre ce qui se passe, soit des lettres beaucoup plus longues, tendres peut-être ou inquiétantes, mais qui elles mettent des mois à arriver, et tout ça au milieu d'affaires aussi, parce que vous aimez ça. C'était déjà le cas dans Au revoir les enfants. Il y a d'ailleurs des références pour ceux qui vous ont lu, parcouru et découvert dans le passé. Mais on peut aussi être totalement naïf et tomber de la dernière pluie et se mettre à lire Le Grand Monde sans avoir besoin des repères.
L'idée, vous avez raison, l'idée, si vous voulez, c'est que
j'ai dit Au revoir les enfants, au revoir là-haut.
Oui, oui, mais vous avez vu, personne n'a voulu vous vexer.
C'est gênant.
Avait vu, tout
c'est
monde
gênant.
A entendu.
Ça veut dire qu'il y a eu d'autres erreurs que personne n'a rectifiées et que j'ai pas.
On t'enverra la liste.
Merci en tout cas. Emmanuel Carrère d'être venu sur la table.
Non, chaque volume est une histoire bouclée, c'est-à-dire en fait on peut prendre cette série, il y a maintenant 4 romans, hein, puisque je vais feuilleter l'ensemble du 20e siècle, il y a maintenant 4 romans, et un lecteur peut prendre n'importe quel livre dans n'importe quel sens, ça n'a pas d'importance. Mais c'est vrai que si on les lit dans l'ordre de parution, bah, il y a une espèce de
petite, éclairage.
Il y a une petite prime de fidélité.
J'adore la formule. Mais en tout cas, l'envie d'avoir et de se dire finalement que la vie de chaque être humain peut être un roman policier. C'est un peu ça. Vous auriez pu aussi prendre chacun des parents ou chacun des enfants et en faire le héros principal d'un roman et raconter son histoire par son prisme.
Oui, d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui se passe parce que, d'une certaine manière, Étienne est un petit peu le personnage principal de la famille. On les voit tous, hein, tous les frères et sœurs, les parents sont présents. Mais la ligne directrice qui est ce trafic de la piastre que vous avez évoqué tout à l'heure, puisque lui, Étienne vit à Saïgon, c'est une ligne narrative qui pilote un petit peu l'histoire de la famille. Hein. Et dans le second volume, ce sera plutôt Hélène, dans le troisième, ce sera plus François. C'est-à-dire, on verra toujours tous les enfants et toute la fratrie et les parents, mais il y aura toujours un petit accent sur un des enfants. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée que je me fais de la tétralogie.
Et la place de la femme aussi dans ce roman, elle est en fonction presque, j'ai envie de dire, des âges et du rang social. C'est vraiment aussi ce qui marque ce passage des années 40-50, c'est-à-dire la femme change de place et le regard sur la femme change également.
Oui, mais on est encore dans une période de domination masculine
clairement,
sans partage.
Clairement.
Clairement. C'est-à-dire que vraiment, c'est une période charnière où les femmes vont commencer à trouver leur place, l'arracher à la domination masculine. Et c'est vrai, 48, ce sont des années difficiles pour les femmes. Somme toute, on peut dire quelque chose de simple. C'est que le corps des femmes est la seule chose qui leur permet véritablement d'exister. Et tout est basé sur le corps. Alors c'est l'époque, on a Brigitte Bardot, on a les bikinis, vous voyez, enfin on a les publicités des ménagères,
c'est ça.
Hein, avec des femmes qui font la cuisine, qui lavent le linge,
paradoxalement,
etc.
C'est une libération, mais elle devient aussi
absolument
l'objet du commerce.
Mais c'est pas nous, c'est pas n'importe où, c'est la cuisine, c'est la salle de bain.
C'est ça. Oui, c'est ça, voilà.
Morgane,
même si j'ai l'impression que les Pelletier sont un tout petit peu en avance sur leur temps. Parce que le père, c'est un patriarche, mais il est pas, il n'empêche pas sa femme, il n'empêche pas spécialement sa fille. Il est protecteur, mais...
Et il ne s'immisce pas dans la vie sexuelle de ses enfants non plus.
Ouais,
ils sont un peu libres de faire ce qu'ils veulent.
Oui, vous avez raison. Je crois que, en fait, c'est une jolie famille. Parce que, évidemment, comme dans toutes les fratries, il y a les enfants qui s'aiment, ceux qui s'aiment moins, qui sont plus distants. Enfin, on a toujours un frère, une sœur avec lequel ça marche mieux.
On déteste.
Les enfants ont... les parents ont toujours un enfant préféré, même s'ils ne le disent pas. Bon, donc ça, c'est des configurations dysfonctionnelles, j'ai envie de dire, par définition. Mais au moment où la famille va être en difficulté, difficulté, elle va se ressouder. Et je pense que là, c'est au moment de la difficulté que l'on voit si une famille a un
solide ou pas.
Ciment.
Oui, parce qu'elle peut exploser aussi en plein vol, cette famille.
Oui, elle pourrait, parce que ce qui va lui arriver va être assez tragique. Et il va falloir là, c'est à ce moment-là qu'on va voir si la famille est une vraie famille soudée. Et je crois que sur ce plan-là, la famille Pelletier est une belle famille.
Chez Calman Lévy, le nouveau Pierre Lemaitre, ça s'appelle Le Grand Monde. On est ravis de vous avoir en invité. Vous étiez déjà venu dans cette émission, oui, mais peut-être pas d'une manière aussi dense, en tout cas, pour raconter votre nouveau roman. On est ravis de vous accueillir. Nous sommes ravis. C'est pas le cas de tout le monde, parce que la parole se libère maintenant. Et Morgane, va vous dire, elle est pas du tout contente. Elle vous aime pas, Morgane. Comment tu n'aimes pas Pierre Lemaitre?
Pierre Lemaitre, je vous aime pas, mais malheureusement, personne dans mes proches ne va croire cette chronique, vu que les murs de mon appartement sont essentiellement constitués en bouquins de Pierre Lemaitre. Lemaitre, quoi, tout est dans le nom de famille, en fait. Si encore vous vous étiez appelé Pierre Sapas ou Pierre sur la plage, ça se lit vite, mais non, là, c'est Lemaitre. Alors, faut être à la hauteur de votre nom et à la hauteur de mon salon. Bon, 1m90 sous plafond, si je me tape un basketteur, il ne pourra jamais, jamais se déplier. Moi, je vous ai découvert à l'époque avec votre série de polars, le premier, Travail soigné, après Alex, Robe de mariée, Rosie et John. Du coup, quand vous avez eu le Goncourt pour Au revoir là-haut et que les gens me parlaient de vous, j'étais insupportable. Je me la pétais un peu, genre ah non mais moi je le connais d'avant en fait. J'ai lu Cadre Noir, j'avais 3 ans et demi, hein, donc pas qu'à voir. C'est mon père à la base qui vous lisait beaucoup. Ça a été d'ailleurs longtemps un rituel entre lui et moi. Il lisait d'abord, il me disait pourquoi il avait adoré en me spoilant la fin une fois sur deux, et il me le passait pour que je le lise ensuite et que je ne l'y rende jamais. C'était notre petit accord père-fille, et puis c'est joli parce que me demander de lui rendre le livre, c'était un petit peu une excuse pour m'écrire des textos. Et souvent à la fin d'un polar, je lui écrivais un message à 4h du mat qui disait juste oh putain. Je l'ai pas vu venir celle-là. Impossible de dormir. Et il me répondait, titre. Voilà, grand lecteur, mais éducation à ses limites. Voilà.
Non,
on en parlera après.
Titre déjà.
Ouais, me demandez pas d'expliquer à Pierre Lemaitre ce qu'est titre, parce que j'assume pas du tout. Votre nouveau roman, Le Grand Monde, il est sorti en début de semaine. Le Grand Monde, oui, le gros livre aussi. À cette occasion, j'ai lu une interview de vous récente dans Madame Figaro, où on vous demande quelle est votre Madeleine de Proust, et vous répondez l'œuvre de Marcel Proust. Alors non, ça non, non, bah non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Déjà, c'est une manière de dire que vous avez lu Marcel Proust. Et cette réponse, elle me ramène à un des plus grands échecs de ma vie. Moi, j'ai pas réussi. Attends, ce dédain qu'il faut pour dire que le plus grand échec de ta vie, c'est de pas avoir lu Marcel Proust. Alors que c'est faux. Hein, je suis un foirage existentiel par jour. Je compte tellement d'échecs que maintenant, je dois les déclarer à l'URSSAF. Je vous jure, je me plante si régulièrement, ça devient même des proverbes. Parfois, le ciel se couvre quelque part dans le monde. Il y a quelqu'un qui dit ah bah ça, c'est encore Cadignan qui a cru qu'elle avait une bonne idée. Tiens. Et croyez-moi que la recherche du temps perdu, j'ai essayé, putain. Elle m'a allumée pendant tout le premier confinement. Elle était là, posée sur la table, à me regarder avec sa petite couverture, genre, bah alors, ouvre-moi, t'attends quoi? T'as peur de pas être à la hauteur? T'as peur de t'endormir? C'était horrible de se rendre compte que même avec un livre, ma vie sexuelle est morne. Non mais c'est trop gros, moi, ça me fait peur. Oui, je sais, papa, titre. À partir du moment où l'édition poche, elle rentre pas dans ma poche, je me dis qu'il y a une enfume. À part si t'es un putain de kangourou, la recherche du temps perdu, ce n'est pas un livre de poche. Il y a une règle simple, hein, quand tu pars en vacances, s'il faut déclarer ton bouquin comme bagage cabine, c'est que là, a priori, tu le finiras jamais. Le dernier Lemaitre, il est génial, mais sur EasyJet, t'embarques pas, ça va mal, quoi. Non mais, Pierre, juste, je reviens à cette réponse, c'est pas possible. Ma Madeleine de Proust, c'est comme si je vous demandais c'est quoi votre tasse de thé, que vous me répondiez une tasse de thé. Enfin non, on peut pas vivre en 2D comme ça. C'est comme si je demandais à mon père c'est qui Lemaitre et qu'il me répondait Pierre Lemaitre. Bon là ça marche, mais vraiment c'est la seule exception que je te fais.
Merci Morgane. Non, et en termes de références d'ailleurs, puisque tu évoques Proust, l'une des références que j'ai découvertes dans votre roman, c'est H.G. Wells. C'est la manière dont vous décrivez l'écriture d'un roman en disant, d'abord vous reconnaissez avoir énormément travaillé, mais surtout vous reconnaissez à celles et ceux qui vous ont aidé leur apport, aux influences apportées par... qui un roman, qui un fait divers, qui une actualité ou une manière de travailler ou d'écrire. Et c'est assez fort de reconnaître autant d'influence.
L'idée, elle est simple. Wells la formule bien. Il dit au fond, la façon de fabriquer un roman, on est une éponge. On a attrapé ici un visage, on a entendu un trait, voilà. Et au fond, tout ça, c'est une manière de rassembler ce qui est un petit peu épars. D'ailleurs, Roland Barthes, puisqu'on dit des gros mots, Marcel Proust, maintenant Roland Barthes, vous voyez, j'essaie de mettre à la hauteur, écrivait, un romancier, c'est quelqu'un qui arrange des citations en retirant tirant les guillemets. Vous voyez, en fait, ce qu'il voulait dire par là, c'est, au fond, on prend plein de choses éparses, des citations, des choses qu'on a entendues, et puis tout ça, on le met dans un espèce de bocal, un entonnoir, et ça devient un roman quand ça infuse.
Alors, quels sont quand même les fondamentaux qui vous passionnent? Est-ce que ce sont les scandales? Parce qu'il y a aussi la justice qui est très présente, ou l'injustice, d'ailleurs, dans le regard de certains. Il y a des manipulations, il y a des menaces qui arrivent. Encore une fois, c'est un thriller. Il y a des cadavres qui sont là aussi. Mais est-ce que vous avez, vous, une espèce de réflexe, un malin plaisir à jouer avec le sentiment de justice ou d'injustice? Et j'ai presque envie de dire aussi avec le sentiment du karma, de se dire aussi que le comportement de l'un peut avoir une influence sur la vie à suivre.
Oui, et puis le plaisir romanesque de mettre en place des arnaques. Parce que l'arnaque, elle est très ambivalente, elle est intéressante pour ça, aussi bien pour le romancier que pour le lecteur.
Parce Donc
que
c'était de l'arnaque, on l'avait déjà dans Au revoir.
C'est une de mes marques de fabrique. C'est cette idée, et on en trouve une là, ici, dans le Gros Monde avec le trafic de la piastre. C'est ambivalent et c'est intéressant parce que, à la fois, moralement, on la condamne, mais en même temps, esthétiquement, on l'apprécie quand on n'en est pas la victime. Quand ça tombe sur l'autre, une arnaque, c'est joli. Voyez, et donc on se défausse facilement. Et cette ambivalence, j'essaie de la cultiver, y compris dans les personnages. Prenons Jean par exemple. C'est un personnage qui a une face noire et une face émouvante. Et je fais le pari que le lecteur va être de temps en temps ému, de temps en temps révulsé par le personnage. Au bout d'un moment, de ne plus savoir très bien quoi penser de ce personnage. Lorsque le lecteur ferme le livre et qu'il a toute liberté d'aimer ou détester les personnages, je pense que d'une certaine manière, le livre est un peu réussi.
Oui, c'est ça. Mais en même temps, est-ce que l'argent est aussi l'un des moteurs de ces arnaques, évidemment, l'argent et le sexe régissent le monde.
Bah écoutez, en tout cas, ce que nous avait appris Balzac, c'est que l'argent est un des moteurs de l'histoire. Maintenant, en fait, entre l'argent et le sexe, globalement, entre l'amour, la passion et le profit, on touche des grands universaux. Si j'avais écrit un livre qui se passait du temps de Néfertiti, on se dirait déjà... Ah, c'était déjà comme ça, comme aujourd'hui. Parce que ces grands universaux, l'amour, la passion, la sexualité, le profit, l'argent, le pouvoir, la domination, tout ça, c'est un espèce de fond universel.
Ça fait partie quoi, des vices des êtres humains?
Non, ça fait partie, c'est fondamentalement un trait de l'humanité. Nous sommes ainsi bâtis. C'est notre nature humaine. Et en fait, nos passions nous dirigent. Freud avait très bien vu à quel point nos passions nous dirigent, notre inconscient nous dirige. Et d'une certaine manière, ce fond-là, il est anhistorique. Il appartient pas à une période donnée de l'histoire. Vous prenez n'importe quelle histoire, à peu près n'importe quand, relisez Les Mille et Une Nuits, vous allez y trouver l'argent et le sexe.
Et c'est des thèmes, l'homme n'y résiste pas. Il tend une oreille, il jette un œil à chaque fois, c'est plus fort que lui.
Oui, je pense que c'est plus fort que lui.
C'est dans ses gènes, c'est dans l'ADN.
Oui.
De la même manière que quand on est lecteur, lorsqu'on est lecteur, on s'attache à un personnage et justement comme vous nous faites balader de l'un à l'autre, on a envie de vite retrouver celui auquel on s'attache. Est-ce que l'auteur aussi à ses préférés, à ses chouchous, comme un papa dans une famille, vous l'avez dit.
Bien sûr, mais je fais comme tous les pères de famille, j'ai mon préféré, mais je ne le dis pas.
Est-ce qu'il y a un peu de vous dans chacun aussi?
Il y a des personnages où il y a un peu plus de moi. Moi, vous savez, j'essaie d'écrire assez loin de moi, mais malgré tout, vous pouvez pas vous empêcher de passer des traits. Oui, enfin, on peut pas s'empêcher de le faire. Et il y a des personnages qui me ressemblent un petit peu plus. Par exemple, je me sens assez proche de François, qui veut devenir journaliste. Enfin, il ressemble, je crois, assez bien à l'adolescent que j'ai pu être à 17, 18 ans, de ses espoirs, de devenir un grand journaliste, c'est un truc qui m'est pas indifférent.
Et alors, il y a un point commun à tous vos personnages, c'est que le mensonge est très présent. Alors, est-ce que c'est une manière de se protéger, de se la raconter belle, la vie qu'on est en train d'avoir, en disant, j'ai pas envie d'être jugé, donc je vais dire que tout va bien, et je vais avoir une autre vie que celle que mes parents s'imaginent ou que mes amis s'imaginent, mais le mensonge est très présent.
Le mensonge, alors, regardez quand même, le mensonge est extrêmement présent dans la vie de tous les jours.
C'est le nombre de fois. Pas ici, monsieur. Ah.
Mais c'est pas un mensonge.
Non, mais dans la vérité.
La vérité. Je veux dire, c'est dans le vrai monde. Dans le vrai monde.
Voilà.
Dans le vrai monde, dans le grand monde, le mensonge est partout. Ce qui est intéressant dans le mensonge, c'est qu'il est permanent, mais que les raisons de mentir sont toujours différentes. Et ça qui est intéressant dans la famille Pelletier, chacun ment, mais chacun a une raison différente de le faire.
Oui, et ces raisons reviennent à est-ce que c'est un intérêt personnel, oui. est-ce que c'est un appétit sexuel, est-ce que c'est une histoire d'amour, parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour et toutes les amours sont toutes les formes d'amour en tout cas sont représentées.
Oui. Vous avez raison. Sur ce plan-là, on pourrait dire que c'est un roman de l'ambition. Parce que vous voyez, le père a l'ambition que son père reprenne l'usine.
Il y a un petit côté Rastignac chez
oui,
François.
Oui, aussi, côté un petit peu Rastignac qu'on trouve chez François. Hélène, qui est une grande adolescente, qui a envie de venir dans le grand monde et puis de se débarrasser un petit peu à la fois des parents, d'une certaine des hommes qu'elle a connus et elle a envie de passer à autre chose. Bah, en fait, c'est le roman de l'ambition. Chacun a ses ambitions. Quand je dis ambition, il ne s'agit pas d'avoir des êtres qui veulent absolument réussir. Vous voyez, c'est pas Rastignac au sens propre du terme. Ouais. Mais dans la vie, chacun part avec son ambition. Et ceux qui restent, comme les parents, ont aussi leurs ambitions. Ce sont des ambitions passives, mais des ambitions quand même.
Oui, et en devant gérer le jugement des autres.
Oui.
Le jugement dans le couple, le jugement dans la famille.
Alors, c'est aussi pour ça, vous voyez, on parle de famille dysfonctionnelle, j'ai envie de dire, mais quelle famille ne l'est pas ? Par définition, la famille, c'est la première instance qui vous rend fou. Après, c'est l'école et après, c'est l'entreprise.
C'est un tribunal pour vous, c'est ça ? La famille, l'école,
non,
l'entreprise ?
Non, c'est pas un tribunal. C'est un creuset de nos névroses. Tous les enfants sont le résultat de la névrose de leurs parents. Et la famille est en soi un bocal qui est un bocal naturellement névrotique. Donc il est absolument normal qu'une famille soit dysfonctionnelle. La question c'est où est le curseur ? Il y a des familles qui sont très gravement dysfonctionnelles, ça fait des dingues, et puis d'autres qui sont ce que Freud appelle des névrosés normaux. J'ai envie de dire la famille Pelletier sur ce plan-là est une famille normalement névrotique.
Alors c'est une grande famille, 4 enfants, 3 garçons, une fille. On est dans un contexte pendant ces 9 mois de mars 48 à novembre 48, on parcourt ce qui se passe dans le monde. On est très proche de l'actualité. Vous avez beaucoup de références dans vos lectures que vous citez à la fin du livre, dans les éditoriaux qui vous ont influencé d'ailleurs pour diriger la plume de François dans son journal. Des faits divers qui sont sûrement pas loin d'une réalité, en tout cas qui sont probables dans vos recherches, et l'envie d'avoir en une phrase, en un mot, de passer du chaud au froid en nous scotchant, en disant non, c'est vrai que quand on le lit, on dit non, il a pas fait ça. Ça vous plaît qu'il y ait ce rythme-là aussi, c'est-à-dire de prendre le temps.
Le petit coup de taser.
Oui, c'est-à-dire que vous prenez le temps par moment de rentrer dans des descriptions qui prennent 2-3 pages sur les odeurs, les couleurs, les accessoires, la décoration d'une pièce, d'un hôtel, d'un bouge, de la rue qui foisonne. Enfin, on est vraiment en train de voir les images grâce à vous. Et d'un coup, il y a en un mot. Bing, il y a le truc qui se passe comme une gifle que vous nous donnez.
Ouais, vous rappeliez tout à l'heure très justement mon histoire avec le roman policier. Je pense que ça c'est un héritage. Hein, vous voyez, dans le roman policier, vous agissez sur 2 moteurs, le suspense et la surprise. Hein. Donc le suspense et la surprise sont les 2 mamelles du roman policier. Et ça, je crois que j'ai gardé du goût pour ça parce que je connais son efficacité narrative. Je sais quel effet ça fait quand on est un lecteur d'être d'un seul coup scotché par une phrase qui ouvre à des conséquences qui sont sur le coup à peu près incalculables.
Chez Calman Lévy, Le Grand Monde, c'est signé Pierre Lemaitre. On continue d'en parler jusqu'à 12h30. Mais d'abord, voici Paul Mirabel.
Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui ?
Extrêmement, oui. C'est gênant même tellement ça.
Ah bah écoutez, moi aussi ça va. Juste cette semaine, j'ai enfin pris conscience que j'étais un peu stupide. Je sais ce que vous vous dites. Bon, c'est pas trop tôt, ça fait 2 ans qu'on lui dit. C'est le seul qui tire la porte du studio alors qu'il y a écrit en gros poussé.
T'es pas le seul.
En fait, le problème quand t'es stupide, c'est que t'es pas forcément au courant tout de suite. C'est comme blond vénitien, tu peux le découvrir assez tard dans la vie. Et je parle pas pour moi, bien sûr, je parle pour un ami qui m'a dit de parler de ça. Je me suis rendu compte que j'étais stupide puisque je perds systématiquement mes clés en ce moment. Donc j'ai fait un double des clés de chez moi. Sauf que j'ai caché le double des clés de chez moi chez moi. C'est quand même significatif d'un cortex préfrontal plutôt restreint. Je vois que je suis stupide aussi parce que j'ai 26 ans et j'arrive encore à me faire surprendre par la vie. Par exemple, ce matin, je suis sorti de chez moi et je me suis dit, mince, il fait froid. Alors qu'à 26 ans, t'es censé savoir qu'il fait froid en hiver. Tu te fais surprendre une fois quand t'as 5 ans et après, c'est bon, tu prévois un manteau pour le reste de ton existence. Après, pour ma défense, j'ai un entourage qui ne m'aide pas pas forcément non plus. Par exemple, j'ai un cousin. Je sais qu'à part le mot cousin, il n'y a rien qui nous relie. je le sais, puisqu'il n'y a pas longtemps, on regardait un match de foot dans lequel il y a eu un coup franc. Là, il y a quelqu'un qui a crié « frappe-le », il m'a frappé moi. Après aussi, la subtilité du problème, c'est que tu n'es pas forcément obligé d'être stupide pour dire des stupidités. C'est une frontière très fine. Par exemple, j'ai vu là que récemment, Éric Zemmour avait dit voilà, j'ai pas besoin de terminer la phrase, puisqu'en général, quand tu commences une phrase par Éric Zemmour, ça termine rarement par « il a dit un truc que j'ai trouvé à la fois super pertinent et hyper original ». Vraiment, cette histoire de changement de prénom, ça m'a vraiment ému. Il y a des choses dans la vie qui rendent stupide parfois aussi. Par exemple, ça a été prouvé scientifiquement que faire une tête au foot, ça pouvait endommager le système cérébral. Ouais. Et moi, comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup joué au foot. Et c'est sûrement pour ça que j'ai deux paires de clés chez moi et que ça fait une semaine que j'essaie de comprendre pourquoi le mot court est plus long que le mot long. Mais j'ai revu mes objectifs à long terme. Du coup, j'aimerais bien devenir de plus en plus intelligent dans la vie. J'aimerais bien qu'un jour on se croise dans la rue dans 7 ans et que vous me disiez, tiens, j'ai croisé Paul hier, qu'est-ce qu'il est devenu intelligent? Alors son mariage avec Jennifer Lopez, ça l'a vraiment tiré vers le haut. C'est dommage qu'elle l'ait quitté pour ses petits problèmes de calcul rénaux, mais il avait l'air tellement épanoui. J'aime même être transparent avec vous. Mon but à long terme, c'est de faire des citations. Il y a des gens dans l'histoire qui ont laissé de grandes citations derrière eux. Moi, le seul truc que j'ai laissé derrière moi pour l'instant, c'est la porte du studio ouverte. Donc j'ai quand même une petite marge de progression. C'est toujours pratique une citation d'ailleurs pour avoir l'air intelligent en société. C'est vrai. Ponctues ta phrase par et d'ailleurs tu sais que comme disait Gandhi, l'important c'est de prendre les trois points. Bon, il a pas vraiment dit ça, mais il aurait pu. Du coup, j'ai quand même pris l'initiative. Je vais vous proposer une situation personnelle, si, à laquelle j'ai longuement réfléchi. Alors au début, j'avais pensé à construisons dans un monde qui bouge. Mais en fait, c'est déjà le slogan du CIC, donc ça a impacté moins. Après, j'ai pensé aussi à Bande de chacals, vous allez tous mourir comme des chacals, mais c'était déjà pris dans Astérix, Mission Cléopâtre. Donc j'en ai trouvé une qui est, tenez-vous bien, deux points, ouvrez les guillemets, dans la vie, parfois il y a des gens bien et parfois des gens moins bien.
Pas mal.
Voilà. Alors c'est pas une citation de ouf non plus.
Non.
Après, tu peux pas être fort à ta première citation, mais je pense que Confucius, avant de dire choisissez un travail que vous aimez, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie, il a dû avoir un brouillon avec écrit choisissez un travail que vous aimez ou allez remplir votre déclaration d'intermittence chez Pôle emploi. Mais il s'est rendu compte que ça manquait un peu de forme après. J'ai mené mes recherches sur vous d'ailleurs, Nagui, et vous avez pas fait de citation.
Non, c'est pas bon.
30 ans de carrière dans l'audiovisuel et la seule phrase qu'on retient, c'est et tout de suite les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Non, le seul trait d'esprit que j'ai trouvé de vous, après environ 900 heures de recherche, c'est en parlant de votre femme, je cite, elle est très importante, j'étais pas pareil avant. Et c'est vrai que c'est tellement subtil comme réflexion, on sent à la fois toute la profondeur et toute la poésie dans le j'étais pas pareil avant. On a trouvé sa réponse d'ailleurs inquiet, il est très important pour moi aussi, mais j'étais clairement pareil avant. Bon, je vous laisse, parce qu'il faut que j'aille donner le double de mes clés à Jennifer Lopez, puisque c'est une femme très importante, j'étais pas pareil avant, et surtout n'oubliez pas, dans la vie, parfois il y a des gens bien et parfois des gens moins bien.
Et Paul, on te retrouve à l'Olympia les 8, 9 et 10 et 11 même décembre prochain et tu seras aussi en tournée dans toute la France.
Oui.
Vous êtes bien dans la bande originale sur Inter avec cette fois-ci Véronique Sanson, t'aimes ça
hein? Ah oui.
J'aime bien le ah ouais. Et son amoureuse.
Ah, c'est pas sa meilleure.
Avec lui, mais je sais qu'on nous l'interdit, et je sens la fièvre qui me mord, sans que j'aie l'ombre d'un remords. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Et je cet amour aura un lendemain. vie. Je prie pour que le destin m'en sorte. Je prie pour que le diable m'emporte. Et l'angoisse me montre son visage. Elle me force à parler son langage. Mais quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Et je me demande si cet amour aura un lendemain. Quand je suis
C'était Amoureuse de Véronique Sanson dans la bande originale sur Inter. Parmi les références que vous citez à la fin du livre, il y a Georges Brassens. Alors, oui. J'enchaîne avec lui parce qu'on va parler musique, mais aussi parce qu'il n'a pas été toujours tendre, loin de là, avec les religions. En quoi Brassens vous influence ?
Alors non, Brassens ne m'a pas influencé. Pour vous dire les choses, c'est pas quelqu'un que j'aime beaucoup. Hein. L'anarchisme de droite, c'est pas mon truc.
Qu'est-ce qu'il vous a fait ?
Non, rien, mais l'anarchisme de droite, c'est pas ma tasse de thé, hein, pour reprendre la référence proustienne. Bon, mais malgré tout, quand dans un roman, il me vient une image, on reparle de Wells que vous évoquiez tout à l'heure, quand une image, un mot, me vient d'une chanson de Brassens, que je l'aime ou que je l'aime pas, je me dois de dire, bah voilà, je lui ai piqué un mot, une virgule, une image.
À Nougaro aussi, c'est-à-dire que vous entendez des paroles, des chansons quand vous écrivez.
Non, alors
vous écoutez quand vous écrivez.
Bon, écoutez, je crois qu'il est temps de vous dire la vérité.
S'il vous plaît.
Il est temps de vous dire la vérité. Je n'aime pas la musique.
C'est pas vrai.
Je n'aime pas la musique.
C'est possible.
Je suis venu ici parce que vous êtes sympathique et que j'avais envie de rire et de m'amuser. Mais je suis très très embêté quand on va parler des choix musicaux. On va s'amuser un petit peu avec ça. Mais c'est vrai que je n'en écoute pas. J'aime pas beaucoup ça. Et quand il y a la musique, la première chose que je demande, c'est qu'on baisse ou qu'on la ferme. Bon. Dans les restaurants, c'est terrifiant. Ma femme est terrifiée parce que dès qu'on rentre dans un restaurant, elle entend la musique et elle me dit, oh là, je crois qu'on va pas supporter. Elle sait déjà que je vais me lever au bout d'un moment. Je dis, bon, non. Arrêtez-moi cet homme.
Il y a deux choses. Il y a le niveau sonore quand on est dans un restaurant et qu'on vient pour autre chose que pour écouter de la musique. Et puis, il y a la musique en elle-même.
Non, c'est pas ça. Non.
Elle ne vous a jamais touché.
C'est le stéréotype selon lequel, par définition, ce serait bien d'en avoir. Après, le choix de la musique et le niveau sonore, c'est autre chose. Mais il y a ce principe, c'est ce stéréotype, ce lieu commun, c'est la musique, c'est bien. Eh ben non, moi je dis la musique, c'est chiant.
Non, ouais. Alors...
wow. Du coup, le 21 juin, vous vous couchez à 14h.
Mais ouais, mais je suis tellement choqué.
Écoutez-moi, si je vous disais, oh la sculpture, je suis pas fan, vous vous en ficheriez complètement.
Non, c'est pas ça. C'est que je ne comprends pas que vous fassiez, que vous soyez autant sectaire ou catégorique sur un domaine. Qu'il y ait de la bonne ou de la mauvaise musique, j'entends. Qu'il y ait des sculptures qui vous émeuvent et d'autres pas du tout, je comprends. Comme les romans, vous pouvez comprendre aussi qu'en lisant un livre, ça nous fasse ni chaud ni froid et que d'autres nous bouleversent ou marquent une vie entière.
Mais bien sûr, Nagui,
comme tous les gens qui généralités sur la musique,
comme
c'est
tous
ça
les gens qui n'aiment pas la musique, il y en a quelques-unes que j'aime, évidemment. Mais d'une manière générique, il y a un stéréotype qui fait que la musique, à peu près partout, ça serait bien. Et je suis désolé, moi, quand je vais au restaurant dîner avec un copain, j'ai pas envie que la musique vienne me casser les pieds. Quand je travaille, que je lis dans un café.
Mais de la même manière, je vous assure que quand je vais dans un concert, j'ai pas envie qu'une Mozzarella vient de me casser les pieds.
C'est pas un art qui vous touche.
C'est ça. Chaque chose a sa place.
Absolument.
Et les vaches seront bien gardées. En 68, Pierre Lemaitre, vous écoutiez quand même, vous avez entendu quelque part.
Qui ne s'est jamais laissé enchaîner.
Alors, est-ce que c'est pour
Gainsbourg et cette chanson du Forçat, ou est-ce que c'est pour la bande originale de Vidocq?
Alors c'est vraiment les deux. D'abord, c'est la, pour moi, c'est la naissance de Gainsbourg à mes yeux. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'il apparaît à mes yeux. Et puis, c'est le début des séries télé. Hein, j'ai une dizaine d'années à cette époque-là.
Arsène Lupin, Vidocq.
Oui, ce sont les séries en noir et blanc. Il n'y a pas beaucoup de chaînes, donc tous les Français sont devant la télévision. On n'a pas de zapette, on n'a pas encore de télécommande.
C'est Claude Brasseur qui...
Alors, avant Nagui, c'est un acteur magnifique qui s'appelait Bernard Noël,
oui,
qui est mort très jeune, qui était un acteur absolument sublime et qui, à sa mort, a été remplacé par Brasseur, effectivement.
C'est ça.
C'était une série assez magique.
Est-ce que c'est la naissance du suspense, justement, pour vous?
Ouais, avec Les Misérables, avec Dumas, ouais. Mais en fait c'est la même famille. Vidocq, c'est Hugo, hein, c'est Hugo, c'est Balzac. Hein.
Et c'est aussi l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a le policier, le suspense, mais tout ça sur une toile de fond historique.
Oui, tout à fait, absolument. Et puis quand même, il y avait un culot dans cette musique. Vous voyez, écoutez l'accompagnement, cette basse continue. C'était vraiment, voyez, Gainsbourg avait déjà. Était déjà Gainsbourg. Ça, c'est magnifique.
Vous parlez bien de musique pour quelqu'un qui l'aime pas.
Ouais.
En 85, vous écoutiez une autre bande originale. Ah, c'est une période moins heureuse dans votre vie, Thérèse Desqueyroux. Cette musique vous touche?
Alors, c'est pas cet extrait-là qui me touche. Non, peu importe, mais la musique du film qui a été faite par Maurice Jarre pour le film de Franju, c'est une musique que j'ai... Je suis vraiment désolé à nouveau de revenir sur Proust. Je l'ai découvert dans un spectacle sur Proust et la musique accompagnait à la fin du spectacle et j'ai été absolument vampé par cette musique. Comme tous les gens qui n'aiment pas la musique, il y en a que j'aime, bien évidemment. Et celle-là, elle m'évoque vraiment des périodes douloureuses de l'existence, qui était le cas en 85, au moment où j'ai écrit Le Serpent Majuscule, qui est paru l'an dernier, et qui était une période difficile, c'est la mort de mon père, et j'ai vécu une période difficile, et au fond, cette musique nostalgique, elle m'évoque bien ces moments compliqués.
Est-ce qu'on retrouve aussi dans votre chair, dans la blessure de l'amour entre vous et votre papa, ce que l'on retrouve aussi dans votre roman Dans le Grand Monde, c'est-à-dire le fait de découvrir ou comprendre un peu tard qui est son père?
Oui, et je vous cache pas, il y a une scène dans le livre qui m'a ému lorsque je l'ai écrite, c'est qu'à un moment, le papa va prendre François à part et va lui dire, écoute, je sais que t'es un petit peu jaloux de tes frères et sœurs, tu as l'impression que je m'en suis mieux occupé, mais je vais t'expliquer ce que j'ai fait pour toi. Et d'un seul coup, François découvre que depuis longtemps, son père a fait beaucoup plus de choses qu'il ne le savait. Et ce moment de rencontre où on se rend compte de la véritable valeur du père, c'est bien quand ça arrive quand il est vivant. Mais quand ça arrive un petit peu trop tard, alors là, ça devient une petite tragédie au niveau...
Oui, mais niveau si je peux me permettre, dans votre roman, François à la fois est touché et ému par l'aide de son père, et à la fois, il est un peu embêté d'avoir eu cette ingérence permanente dans sa vie, en se disant, mais à quel moment je décide de ma propre vie sans avoir forcément...
Je crois qu'il comprend que c'est le prix à payer. Je crois que c'est le prix à payer.
Mais ma question était de savoir, pour vous, est-ce que lorsque votre père vous a dit à quel point il vous avait accompagné, protégé ou aimé, avez-vous eu ce sentiment-là aussi de dire, mais alors donc, qu'est-ce que je dois à mon père? Qu'est-ce que je dois à mon propre libre arbitre? Et où est mon mérite?
Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est que, en fait, j'ai appris qui était mon père après sa disparition. C'est beaucoup plus cruel parce qu'il n'y a pas eu ce moment que François vit avec son père. Au moins, il y a un échange en direct.
Que vous auriez rêvé d'avoir.
Oui, absolument, absolument. Et moi, c'était plus cruel parce que je ne pouvais plus dialoguer avec lui.
En 2006, vous avez entendu ou écouté. Je peux comprendre.
Oui,
on rentre dans un resto, t'as ça. Moi, je. Pareil, hein, je suis un peu comme votre femme.
Hein,
je
mange, quoi.
Je vous raconte.
En faisant beaucoup de bruit.
Cette année-là, je pars au Québec. où ma femme a vécu à Montréal quelque temps. Donc on a des amis là-bas. Et j'ai passé 15 jours au Québec dans une famille. J'ai rarement autant ri. Le public québécois, les Québécois sont des gens absolument merveilleux. Une pulsion de joie, de bonne humeur, d'enthousiasme.
On est tous d'accord.
Un sens de l'autodérision exceptionnel. Ouais. Et je ne sais pas, quelqu'un met cette chanson, on se met à chanter, et pendant 15 jours, c'était le gimmick de nos vacances. C'était très, très dérisoire, très autodérisoire, et c'était vraiment un moment merveilleux. On écoutait ça en partant à Tadoussac voir les baleines, c'était absolument magique.
Et c'est une renaissance, c'est-à-dire qu'à 55 ans, votre vie change totalement, même si on est toujours un peu le même quand même, mais c'est votre premier roman.
Ouais, je suis un homme tardif en tout. J'étais tardif en tout. Je suis un vieux papa. Ma fille a 12 ans. Je suis un vieux papa, je suis un vieux mari, je suis un vieil écrivain. J'ai tout commencé très tard. Donc j'espère que Dieu va me donner encore quelques années, parce que sinon ça...
Vous avez plein de choses à faire encore.
J'ai beaucoup de choses à
faire.
Mais
notamment découvrir la musique, ouais, c'est ça. Génial quand vous serez ado.
Oui, peut-être que je serai compositeur bientôt. Hein.
Le premier roman s'appelait Travail soigné, ce qui est quand même en filigrane le résumé de votre vie aussi, c'est-à-dire que vous n'envisagez pas de travailler sans cette minutie qui vous ressemble, de recherche, de documentation, d'information, d'échange, d'écouter d'autres personnes autour de vous et de pas être forcément un loup solitaire dans son coin.
Ouais, je suis un peu perfectionniste. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles je suis un écrivain tardif. Hein. En fait, je mettais la barre assez haut. Il a fallu que je me calme un petit peu pour réussir à faire la chose. Si vous mettez la barre trop, vous ne faites jamais rien parce que vous sentez bien à quel point c'est insuffisant. Par rapport à vos ambitions, c'est pas possible.
Et vous nourrissiez un syndrome de l'imposteur, quelque chose comme ça aussi?
Alors, en tout cas une crise de légitimité, hein, quelque chose qui ressemble tout à fait à ça, vous avez raison. Oui.
Le Grand Monde, Pierre Lemaitre, le signe chez Calman Lévy, on va continuer d'en parler, surtout avec Camille Clairet, historienne, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Vous avez assisté, et j'aimerais savoir comment on travaille avec Pierre Lemaitre.
Alors, comment je travaille avec lui
Comment vous êtes rencontrés?
Alors, ça remonte à la fin de l'année 2015. Pierre préparait un roman qui devait devenir Couleur de l'incendie, et il y avait ce personnage de Madeleine Péricourt qui lui posait problème parce qu'il ne savait pas évaluer la marge de manœuvre dont elle pouvait disposer en tant que femme dans la société française de la fin des années 1920 et du début des années 1930.
Ça, Pierre, c'est votre souci de justesse, de ne pas choquer ou heurter le lecteur en disant
non,
j'ai...
mon souci n'est pas l'exactitude.
Il y a la liberté de l'auteur aussi. Il peut
Mais bien inventer. Sûr, c'est pour ça que l'exactitude historique, je suis pas très fan de l'exactitude historique. Peut-être d'ailleurs Camille de temps en temps m'en fait le juste reproche. En revanche, le sens de l'histoire m'importe. Et là, j'avais un problème que Camille soulève, c'est cette femme en 1930 hérite d'un empire bancaire dans une époque où les femmes n'ont même pas le droit de signer un chèque. Comment fait-on ? Donc je me suis retourné vers elle.
Et quand on est historienne et que l'on on alimente comme ça et qu'on voit ensuite, enfin on livre des ingrédients et le chef fait sa cuisine, fait sa tambouille et ça devient un roman, on a le plaisir de redécouvrir ce que ces ingrédients sont devenus et comment ils ont pris vie.
Oui, c'est vraiment le côté fascinant de ce travail. Hein, donc je produis des notes en fait, des notes de contexte, des notes thématiques, et ensuite Pierre puise dans ces notes la matière de son roman. Et c'est vrai que c'est le côté très très gratifiant et amusant aussi de ce travail, même si c'est pas ludique, hein, ça reste rigoureux.
Est-ce qu'il y a un côté excitant dans la surprise presque de dire j'ai un élément historique à lui apporter, il va adorer tellement c'est dingue que ce soit passé comme ça à ce moment-là, à tel endroit, et que entre guillemets ça va lui donner du grain à moudre?
Oui, complètement, c'est très excitant.
Vous avez un exemple?
Exactement le mot. Bah, par exemple, si je reste là sur le Grand Monde, hein, vous en avez parlé tout à l'heure, mais tout le travail qu'on a fait sur la question des sectes politico-religieuses et plus largement des pratiques religieuses qu'il pouvait y avoir en Indochine, quand j'ai relu le livre pour la première fois et j'ai vu comment ça avait pu donner naissance au personnage de Diem et sa secte qui, peut sembler invraisemblable, hein, j'imagine.
Bah, elles sont totalement loufoques. Il y a des moments où on a envie de rire, même si c'est.
Mais je vous assure qu'il n'est pas tellement. Si
il est pas loin de la. C'est ça,
on se remet dans le contexte de l'Indochine de cette époque.
Est-ce qu'il y a des moments où vous lui. Comment dirais-je. Comme une maîtresse, une prof d'histoire, vous lui dites non, ça c'est pas possible, je peux pas accepter ça, je ne cautionne pas ce que vous écrivez.
Alors, ça a pu arriver, même si je fais pas en tant que maîtresse. Mais bon, ça arrivait par exemple, alors pas forcément pour ce roman-là. Je me rappelle pour Miroir de nos peines, hein, que le personnage de Louise, je le trouvais un tout petit peu, alors non pas anachronique, mais peut-être un peu en avance sur son temps, hein, pour une femme. Et que Pierre m'avait dit que c'était pas grave. Voilà, qui passait outre. Donc je donne mon avis, après il en fait ce qu'il en veut.
Est-ce que vous continuez de dévorer les romans de Pierre Lemaitre? D'abord, vous le connaissiez avant de travailler avec lui?
Alors j'avais lu Au revoir là-haut.
D'accord.
Alors, j'avais pas lu les Polars, que j'ai lus après. Hein, mon petit ami me les a offerts quand on a commencé à travailler ensemble. Et donc je les ai aussi dévorés. Mais j'avais déjà vu Au revoir là-haut. Voilà.
Vous voulez dire que c'est pas Pierre Lemaitre qui vous a offert ces livres? C'est votre
non,
petit ami?
Même
c'est
pas.
Même pas. Pierre!
J'ai manqué à tous mes devoirs.
Mais sans blaguer, Pierre! Un mot, un texto, et l'éditeur faisait livrer une caisse.
Non, mais Pierre, c'est plus la musique, on l'a compris.
Oui, on a compris. Pierre,
c'est plus la musique. C'est plus la musique.
Mais ça, vivement l'ouverture des boîtes. Il va vous inviter en boîte. Ça va être une dinguerie. Ça va être, Camille, ça va être de la folie. De la folie. Le pole dance avec Pierre Lemaitre, vous allez voir, vous allez vous régaler. Est-ce que ça vous donne envie d'écrire?
Peut-être un jour. Pour l'instant, j'apprends déjà. C'est très différent, hein, d'écrire. Je pense à l'écriture académique et l'écriture romanesque. Après, peut-être plus tard.
Peut-être un jour.
Vous savez, Nagui, c'est aussi la fin de l'émission impossible. Hein. Elle le dit pas, ça, parce qu'elle est très modeste. Hein. Mais de temps en temps, je lui pose des questions. Je me rappelle, c'était dans Miroir de Le Pen, je lui dis, écoute, j'ai deux soldats qui doivent faire sauter un pont, il n'y a pas de dynamite. Comment vont-ils faire? Alors, elle est allée chercher dans les mémoires des soldats. Enfin, elle, c'est une experte de la documentation. Elle a un doctorat, c'est une jeune agrégée, elle est doctorante. Donc, elle sait où aller chercher les choses. Et en fait, en une demi-journée à la BNF, elle est capable de trouver des choses qu'il me faudrait, moi, des jours et des jours pour trouver. Je lui dois beaucoup parce que il y a plein de détails comme ça dans le roman. Je ne sais pas très bien par quel bout les prendre et c'est elle qui m'ouvre qui me donne les clés.
Et vous avez déclaré à propos de Camille Cléret qu'elle était un malicieux mélange de gentillesse et d'efficacité.
Absolument.
Et en plus, c'est une experte en explosifs maintenant. Bah, bravo.
Merci.
En explosifs, en aéronautique également.
D'être venu à ce micro. Voici le héros du jour.
Oui, absolument. Alors. Chers amis, aujourd'hui, mon héros du jour aurait pu être le soleil, qui ce matin sur Paris a comblé de bonheur mon œil encore endormi de soldat chroniqueur des premiers rayons de lumière. Mais très rapidement, les teintes roses puis oranges de l'astre en goguette ont laissé place à un blanc délavé très ordinaire et beaucoup moins romantique. Du coup, non, le soleil de ce matin n'est pas mon héros du jour, et ce n'est pas la seule raison. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce qu'en cette période de vacances scolaires et enneigées, je tenais à rendre hommage, un hommage appuyé, au fromage de montagne, au fromage d'hiver, au fromage qu'on fait fondre. Car en réalité, pourquoi allons-nous au sport d'hiver? Oui, pourquoi?
Pour la raclette.
Pour profiter, vous êtes d'accord avec moi, pour profiter du confort d'un studio 10 places avec seulement 4 couchages, où au bout de 48 heures, ça sent la chaussette humide et le slip rance. Pour s'habiller comme des cosmonautes qui déambulent avec la grâce d'un zombie qui vient de se prendre un coup de taser dans le croupion. Pour glisser comme des cons la bouche entrouverte, avec comme perspective en cas de brouillard de se prendre un résineux en pleine gueule sous le regard abusé de ces connes de marmottes. Ou comme certains d'aller faire de longues balades dans la neige en raquette. Balage dans la neige en raquette. Et pour jouer au tennis, tu mets des boon boots du con? Non, c'est pas ça qu'on va à la montagne. Non, c'est pas pour ça. La montagne, on y va pour le fromage. Vous avez raison, oui. Et mental, abondance, Beaufort, trilogie imparable et délicieuse à la fois, qui une fois chaude et enchevêtrée, nous donne la fondue. Fondue, parfait non-sens diététique qui nous fusille la santé peut-être, et nous remplit de grâce sûrement, mais nous procure un plaisir digne des plus divins orgasmes. Même au Vatican, on ne les atteint pas. Et ce n'est pas fini. Comment ne pas céder aux sirènes mentionnées par Amanda Lear? Oui, la raclette, oui, comment ne pas céder? Ce petit carré de bonheur encore rigide, qui une fois allongé dans son poêlon, s'offre à la chaleur infernale de l'appareil et s'abandonne telle une promesse de paradis des papilles toujours vérifiées. Ah, bordel! Quand le fromage coule sur les patates, engloutissant dans son affaissement la viande des grisons et le saucisson, c'est la fin du monde, mais la fin d'un monde raisonnable dont on n'a rien à foutre! Alors oui, si tu n'as pas à portée de la main un tube de citrate, tu peux crever dans ton sommeil. Mais crever de quoi ? Crever de bonheur. Je pense que le fromage de montagne qu'on fait fondre est la solution universelle pour un bonheur total, voire plus. Mais oui, une bonne fondue et c'est la fin de la guerre en Ukraine. Croyez-moi, comment prendre les armes alors que le petit pic où on empale le pain nous attend pour plonger dans le caclon où la fournaise fromagère n'attend qu'une chose, qu'on la remue, qu'on la tambourine et qu'on l'ingurgite sans ménagement et sans retenue. La raclette, c'est la fin définitive du Covid. Rien de tel qu'un cas de croûte froide pour dégager des odeurs dignes de Sodome et Gomorre et faire fuir pour de bon le vilain virus. Vive mon héros du jour, vive le fromage qui coule, vive la France.
Tanguy Pastureau, de quoi parles-tu tout à l'heure?
Eh bien, je vais vous parler de Charlotte Gainsbourg, cette dame peu connue pour sa pratique du twerk. Par contre, elle mélancolise très bien. Elle a rencontré un de ses fans, Nagui, son plus grand fan, et c'était magique.
C'est la bande originale, le meilleur de la bande originale avec la bande originale. Daniel Morin, qu'est-ce qui t'arrive, Daniel?
Ah, il a craqué.
Ah, pas non.
Je suis loin.
Et Pierre Lemaître, qui est notre invité, le romancier, c'est reparti avec notre invité. Il sera là et il reste là jusqu'à midi et demi. Le Grand Monde, c'est le début d'une nouvelle trilogie.
Tétralogie. Oui, en fait, je suis parti pour faire 3 et puis mon découpage a changé en cours de route. Ce sera 4.
Mais alors, un découpage qui change en cours de route, ça veut dire que vous avez comme une sorte de plan oui, de travail.
Je sais
vous
où
savez
je vais.
Déjà aujourd'hui où vous allez?
Oui, je sais. Enfin, je sais où je vais, mais je ne sais pas comment. C'est-à-dire, je connais la fin, mais je ne sais pas comment je vais y arriver.
Comme
Nagui. Mais par contre, je me suis rendu compte que si j'écartais trop les romans, je perdais un petit peu les personnages à mes propres yeux. J'ai pensé aussi que le lecteur allait les perdre un peu. Donc, j'ai resserré un petit peu l'écart entre chaque roman. Et c'est la raison pour laquelle il y en aura 4 au lieu de 3.
On apprend souvent à ce micro par les invités, les romanciers, romancières que nous recevons, qu'ils se font balader aussi par leurs personnages.
Jamais.
Ah bon,
j'entends rester le patron et le personnage qui renacle est immédiatement licencié.
Il est tué sur le champ.
Il est immédiatement licencié. J'entends rester le patron dans la boutique.
Le fait d'avoir droit de vie et droit de mort sur un personnage, ça vous donne quel sentiment?
La raison pour laquelle on écrit, c'est ce sentiment de toute puissance, bien évidemment.
Morgane.
Et est-ce que c'est un bon personnage fait une bonne histoire ou plutôt l'inverse pour vous?
Un bon personnage fait une bonne histoire, mais une bonne histoire ne fait pas forcément un bon personnage. En fait, ce qui est le moteur, c'est le personnage, parce que c'est l'humain, et l'histoire, c'est ce qui va lui arriver. Mais sans humain, une histoire finit par être comme dans un roman d'Agatha Christie, quelque chose qui sonne bien, qui marche bien, comme une bonne horloge, qui fait un joli bruit, mais au fond, qui ne nous dit rien d'autre que le tic-tac.
D'accord. Le plaisir aussi est de laisser traîner des indices au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire. On peut avoir le sentiment en les lisant que ce n'était qu'une photo dans un coin, ce n'était qu'un objet posé sur une table et qui prend toute son importance 100, 200 pages plus loin.
Oui, mais
vous
ça
aimez,
c'était
vous aimez ça ce côté un peu cluedo.
Ouais. Oui, c'est ce que j'ai aimé moi quand j'ai découvert la littérature, quand je l'ai découvert avec Dumas par exemple ou avec Michel Zévaco, ces détails auxquels on ne prête pas attention et qui d'un seul coup vont se révéler comme des éléments importants de l'histoire qu'on est en train de raconter, ce qu'on trouve également aussi dans beaucoup de séries télé. Ouais. Donc, c'est vraiment que ça c'est quelque chose qui me plaît parce que ça joue à la fois sur la surprise et sur le suspense.
Puisque vous parlez de séries télé et que je parlais d'images, est-ce que vous écrivez aussi avec une sorte de découpage, comme un storyboard, comme le ferait un réalisateur? Vous avez des images, vous avez des flashs, et de la manière dont vous l'écrivez se fait avec aussi des plans de coupe?
Alors, ça fonctionne de manière très visuelle, mais pas de manière cinématographique.
D'accord.
Hein ? C'est-à-dire, c'est très visuel, il faut que je vois... Je vais raconter. Les parents Pelletier,
oui.
Je les voyais pas. Et j'ai demandé...
Physiquement, vous voulez dire, vous
voyez? Oui, physiquement, je les voyais pas.
Okay.
Je les voyais pas. Je voyais un petit peu ce qui leur arrivait. Et donc, j'ai demandé à mon complice Christian Demeter, qui est le dessinateur de la bande dessinée d'Au revoir là-haut. Je lui ai dit, est-ce que tu pourras pas me croquer mes personnages, que je les vois? Alors, il m'a fait un petit dessin.
Mais sur quelle indication, pardon, il les croque lui sur quoi? Sur ce qu'il ressent de
oui,
à
voilà,
la lecture
dis,
du roman.
Essaye de me les imaginer, quoi. Et une fois qu'il les a eu dessinés, ça lui a pris quelques minutes. C'est extraordinaire, un dessinateur quand... C'est vraiment fascinant, hein. J'aurais adoré ça.
Vous les avez reconnus?
Oui, tout de suite, je me suis dit, c'est eux.
C'est eux. Parce que Demeter,
alors moi,
je
j'aimerais
bien
les voir, parce que d'un coup, je j'arrive pas à imaginer s'il est grand, gros, maigre, ah bon chauve. Bon,
non, bah, c'est parce que vous avez lu le livre de manière très distraite, parce que, en vérité,
ah,
je le décris.
C'est pas sympa. C'est pas sympa.
On avait tenu une heure. On avait tenu une heure et là, bim.
Ça, c'est pas sympa. Parce que je vais vous dire, il y en a un qui a un surnom qui est Bouboule, et justement, vous dites, il est en train de prendre de l'embonpoint, donc on va arrêter de le surnommer comme ça, parce que ça risque de le.
Alors, les personnages, j'ai besoin de les voir. Alors, vous savez ce que je fais, c'est au début.
À quel moment vous parlez des cheveux du père Pelletier?
Non, je parle pas des cheveux. Il parle de sa bouche. Hein, oui. Il parle de sa moustache. Et puis il dit qu'il a un corps à la manière d'une bouteille de Saint-Galmier. Vous savez, c'est une bouteille qui s'évase vers le bas. Enfin, c'est une description au début du roman. Pardonnez-moi, Nagui, je sais que vous avez très bien lu.
Non, et elle? Et la maman?
Et la maman, ben, elle est décrite également comme une femme dont on sent qu'elle était extrêmement jolie, donc qui a pris un petit peu de volume et qui reste encore ce qu'on appelle une belle femme, très séduisante.
Oui, et qui a une fille, justement. Alors là aussi, vous jouez avec ça, c'est-à-dire qu'Hélène, sur le regard que vous portez sur elle, sur la fille, donc Pelletier, vous ne la décrivez finalement, physiquement, que par le regard des autres, oui, au moment où elle rentre dans des halls d'hôtels ou de bars ou de fêtes.
Vous avez raison, par le regard des autres, parce que c'est la situation de la femme dans ces années-là. Elle n'existe finalement que dans le regard des autres. Hein. Et d'ailleurs, cette petite Hélène va avoir un amant dans son lycée, je laisse un petit peu la surprise au lecteur, et on voit bien qu'au fond, c'est une fille qui essaie de trouver sa liberté dans une période difficile, parce que le regard des hommes est sans arrêt pointé sur cette fille qui est assez jolie, qui est assez désirable, et au fond, on est dans une période dans laquelle la domination masculine est sans partage. Alors donc, je choisis de la montrer plutôt dans le regard des hommes, pour essayer de faire comprendre au lecteur ce que c'est que de subir ce regard permanent, inquisiteur. Non.
Le grand monde, c'est signé Pierre Lemaitre, c'est chez Kalman Lévy. Et voici Tanguy Passereau.
Hier, j'étais sur le site de West France pour voir si j'avais des proches parmi la liste des gens décédés, parce que la veille au soir à De Grammes, ils avaient pris la voie express à contresens, quand je suis tombé sur un article concernant Charlotte Gainsbourg. Or, j'adore Charlotte Gainsbourg parce qu'elle est simple, chic. Dans un t-shirt à trous, elle est élégante. Dans un sac poubelle avec du compost plein les cheveux, elle reste élégante. Elle est tellement élégante que le magazine Elle pourrait la foutre en une en train de lécher des dragées Fuka, tandis qu'un chien à trois pattes pisse sur son sac, ça passerait. Donc je l'adore, mais je ne suis pas fan. Je suis fan de personne. À cause de la bande originale. Ça fait 4 ans et demi. On aurait eu le temps de faire 6 enfants, Nagui, si la biologie et la passion avaient été de notre côté.
Tu parles.
4 ans et demi que je rencontre les stars. En vrai, bon, globalement, c'est une déception. Hein, ça fait 12 piges que la radio s'est filmée, mais la plupart n'ont toujours pas capté et viennent non maquillés. On les reconnaît pas. Je me souviens de la fois où Morgane avait fait le portrait de Michel Jonas. Et là, Michel Jonas avait dit, mais bon Dieu, je suis Michel Blanc. Enfin, heureusement que c'est pas porté sur le prénom de Michel. Hein. Le problème des gens qui vieillissent, c'est qu'ils se ressemblent tous. Allez dans un EHPAD, vous savez plus qui est Henri, qui est Josiane, il faut faire comme font les caniches, se repérer grâce à l'odeur du pipi. Donc, je ne suis fan de personne, mais Charlotte, je l'aime bien. Ce spleen permanent, cette pâleur qu'on ne voit que dans la famille Adams. Ces chansons jolies dont on se dit yes, ça groove, et là on écoute les paroles et ça parle de la mort. Et puis, j'aime les chanteuses et chanteuses qui murmurent. Quand j'écoute Étienne Daho, j'ai toujours l'impression qu'il est avec moi dans la salle de bain. Alors que quand j'écoute Céline Dion, j'ai toujours l'impression qu'elle est en train de me foutre dehors de chez moi. Donc, revenons-en à Charlotte. Le week-end dernier, elle était dans la Manche, pas celle d'un petit haut Balenciaga, dans la Manche, le département, le 5-0, comme diraient les jeunes, s'il y avait des jeunes dans la Manche.
Dans la Manche.
Parce qu'il y a un festival de cinéma à 40 ans, les Marais, alors non, qui suppose que ça va être humide, hein. Le Marais Poitevin, pareil, c'est humide, et le Marais à Paris, un petit samedi soir de printemps, quand les chiffres du Covid baissent un peu, bon bah, hein, voilà. Hein. Et là, nous dit West France, un de ses fans a fait le voyage depuis l'Antarctique, juste pour la rencontrer, ce qui, sur le papier, est effrayant. Hein, moi, quand les gens font 2,5 km en bagnole pour venir au spectacle, je me mets déjà à hurler, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Et encore, ça, c'est quand j'ai oublié ma lacrymo dans la loge. Alors, ce fan s'appelle José Sarica, il est directeur d'expédition en région polaire, ce lieu où il y a de la glace et qui, dans 5 ans, sera le nouveau Punta Cana. Hein, dans Trax sur Arte, on parlera de la scène reggaeton du pôle Nord. Et donc, il a un amour fou pour Charlotte Gainsbourg. Moi, paumé dans l'Antarctique, sous un ciel gris plombé, j'aurais choisi une star plus rigolote, exemple Marlène Schiappa, quoi. Lui, c'est Charlotte. Donc, il explique à West France, déjà à la base, avoir une passion depuis tout petit pour les orques et les dauphins. Alors jusque-là, aucun rapport avec Charlotte Gainsbourg. Hein, en 87, elle a même raté le casting du Grand Bleu parce qu'elle nageait pas bien. Hein, mais dans le scénario de départ, Jean-Marc Barr devait lui jeter des sardines à elle en lui disant « C'est bien Kiki, allez dans le cerceau maintenant, tu peux le faire ». Mais il dit qu'il est aussi fan depuis toujours de Charlotte Gainsbourg. Chez lui, explique-t-il, il y a un mur dédié à Charlotte. Alors, on a tous fait ça. Moi, ado, j'avais un dessous de lit dédié à Samantha Fox. Hein, c'est ensuite que j'ai découvert l'existence de Catherine Ney et de Valérie Boyer. Donc, ce monsieur a tout laissé en plan en Antarctique. Des manchots ont fait « Waouh !» Ce qui signifie « Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que nous ?» Bon, et il est parti à Carentan, les Marais. Et là, on voit que Charlotte Gainsbourg est une belle personne. C'est qu'elle a accepté de le rencontrer dans un café. Ouest France a filmé la scène. En général, ils filment des algues vertes, donc ça les changeait. Et c'était beau. José a dit à Charlotte, il y a encore 5 jours en Antarctique, j'étais dans la baie Charlotte. Alors ça, c'est un truc de fan. Tout ce qu'ils font, ils voient ça comme un signe. Hein, si à l'hôpital, on leur fait perdre une Charlotte, ils disent, mais en fait, rien à foutre de l'accouchement de ma meuf. Je me barre à Carentan, les Marais, j'arrive, chacha. Et ils s'en vont. Puis José a offert à Charlotte un caillou des terres australes. Wow. Elle a dit, ah oui, hein, de la même manière que Pierre dans Le Père Noël est une ordure quand Thérèse lui offre le gilet. Enfin, elle a signé des vinyles, des CD, des affiches, parce que José avait tout un sac de production de Charlotte. C'est mieux d'être fan de La Rousseau, parce qu'avec un sac banane, vous avez tout. Hein. Ensuite, Charlotte Gainsbourg a dû dire un truc comme, ah là là, j'ai mon train dans 5 minutes. José a répondu, mais enfin, il n'y a pas de gare. Et elle a fui en traversant la Manche à la nage. Une fois en Angleterre, la police lui a dit, on va pas vous mentir, vous êtes notre migrante la moins typée depuis le début de la crise. Alors José, lui, a dit à Ouest France qu'il vient de se passer ses 44 ans d'attente. Or, il a 44 ans. Donc j'imagine que dès la maternité, il était fan. Son premier cri était « Charlotte, je t'aime !» Enfin, les sages-femmes terrorisées ont appelé un prêtre exorciste. Il dit enfin qu'il s'agit du plus beau moment de sa vie. Quand je pense qu'ici, on a eu Charlotte Gainsbourg et que moi, j'ai rien ressenti. On a même eu Yvan Attal et le petit Ben Attal. Je crois que lundi, nous avons le chat Minouche Attal. Et moi, je suis là, je les regarde et ça me fait rien. J'ai perdu toute ma candeur. Même vous, Nagui, il y a tant de personnes qui aimeraient être face à vous. Et moi, bon, ok, là, j'ai encore une petite excitation. Hein.
C'est gentil,
mon
ça
gros loup.
Merci, Loulou.
On se retrouve juste après Animal Triste et Tell Me How Bad I Am.
Animal Triste, auditeur en déprime. Pour une fois, cette émission a du sens.
Oui, totalement sur Saint-Air.
Ouais, on est bien.
D'accord.
My sweet Lord, will you help me leave the darkness behind? So far beyond, such a crime. It's been running, it's been running in my veins for too long. Wrong.
C'était Tell Me How Bad I Am d'Animal Triste dans la bande originale. Le sexe est présent dans le grand monde, Pierre Lemaître. Geneviève n'est pas la dernière à faire plaisir à tout le monde. Je balance.
Non, elle fait plaisir à tout le monde, sauf à son mari. Oui.
Pardon?
Sauf à son mari.
Sauf à son mari, oui, c'est ça. C'était la fin, mais j'ai choqué. Non, mais comme c'est au début, j'essaie encore une fois de vous donner envie de lire le roman sans trop le déflorer, mais c'est au début où on sent que...
Le déflorer, c'est une très belle image.
N'est-ce pas?
Bravo,
n'est-ce
pas? C'est très délicat.
N'est-ce pas? Mais j'ai fait d'autres allusions que vous n'avez pas relevées, donc j'ai pas insisté sur mes allusions. Le grand monde, est-ce que vous avez eu... on a encore entendu tout à l'heure ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous avez le plan des quatre romans, vous savez exactement où vous voulez aller. Mais est-ce qu'il y a eu un moment de baby blues après Au revoir là-haut, être pris Goncourt, dépasser le million de ventes, être attendu par tout le monde, être adulé aussi, vous qui avez enseigné la littérature, il y a eu forcément un moment où vous avez eu votre propre regard sur votre travail. Comment vous avez vécu tout ce moment et comment ça vous a stimulé ou au contraire ralenti dans votre écriture?
Vous avez une expansion qui est très, très juste. Vous êtes attendu. Le prix Goncourt, le problème, c'est qu'il faut le mériter après. On a l'impression comme ça qu'on le mérite avant et que c'est pour ça qu'on vous donne le prix Goncourt, mais pas du tout. Vous faites un livre qui a la chance d'être le prix Goncourt, mais à partir de ce moment-là, on attend dans les livres d'après que vous méritiez d'une certaine manière la légitimité qui était la vôtre. Et c'est assez inquiétant, assez angoissant, parce que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on attend de moi? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je réussirai à faire quelque chose qui sera à la hauteur de...
Et ne pas décevoir.
Et ne pas décevoir. D'abord, ne pas se décevoir soi-même, puis ne pas décevoir les autres. J'avais eu la chance d'avoir trouvé un grand lectorat populaire. Bah, j'avais envie que ces gens se disent pas, bon, c'était bien, mais bon, ça n'a pas duré longtemps, son truc. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est assez inquiétant. Et c'est la raison pour laquelle il faut attendre du temps avant de republier parce que c'est compliqué.
Pour en revenir au grand monde, donc l'histoire de cette famille Pelletier avec ses quatre enfants qui vont découvrir ce grand monde, quitter le foyer, le cocon, le confort, on sent qu'il y a de l'argent, on sent qu'il y a du personnel à Beyrouth dans cette savonnerie qui ouvre des succursales, qui décline ses produits, qui a du succès, qui a des commandes d'avance, enfin voilà, tout est tranquille, trop tranquille. Sûrement parce que lorsqu'ils vont quitter cette protection familiale, ou quand ils pensent en tout cas quitter cette protection familiale, ils se risquent à leur propre vie, à l'écriture de leur propre vie, à des décisions qu'ils vont prendre, à ce libre arbitre. Et on découvre, pour tous les personnages, y compris pour les parents, la fragilité de la vie, à différents degrés pour différentes raisons, mais la vie est toujours fragile dans vos romans.
Oui, et principalement dans la famille, parce qu'on ne se rend pas bien compte, on est mal à l'aise dans la famille parce que c'est rempli de contraintes. On ne se rend pas compte à quel point la famille en même temps nous étaye. C'est elle qui nous aide à nous construire. Et du coup, dès qu'on quitte la famille pour
C'est des fondations, ça ne nous empêche pas de faire des agrandissements.
Absolument, tout à fait. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle quand vous vous jetez dans le monde des adultes, d'un seul coup, il y a à la fois le sentiment de la liberté et le vertige des conséquences de cette liberté.
Mais quand je parle de la fragilité de la vie, ça veut aussi bien dire qu'elle peut s'arrêter à chaque seconde, à chaque coin de rue, sur un accident, sur un fou, sur un attentat, sur un problème, sur une vengeance dont on avait oublié la cause. Et c'est présent. Alors évidemment, c'est un formidable ressort pour un auteur et dans un roman, mais je me demande comment vous la vivez. Est-ce que cette fragilité-là, vous la posez aussi comme question en vous demandant si demain vous serez là, si vous allez aller au bout de vos quatre romans?
Oui,
si...
tout à fait, c'est une vraie question. Alors moi, je le joue beaucoup, c'est à quoi je suis très très sensible, c'est aux décisions qu'on prend dans la vie immédiatement. La fragilité, elle est là. C'est tu veux m'épouser? Là, en une fraction de seconde, je vais dire oui ou non, les conséquences vont être incalculables. Notre fragilité, elle est due au fait aussi que nous prenons en permanence des décisions, nous avons des comportements, nous conduisons des actions qui vont avoir beaucoup de conséquences, mais au moment où on prend ces décisions, où on dit ces mots, on ne mesure pas. Oui. Notre fragilité, elle est dans le fait qu'on est incapable de conscientiser les conséquences de ce qu'on va faire et qu'on est obligé de le faire parce que on est dans l'événement, la vie est ainsi faite.
Mais à force de jouer avec la mort des autres
est-ce qu'on appréhende la sienne ou au contraire c'est une manière de la gérer ou de gérer la peur que l'on peut en avoir?
Je ne sais pas si ça a grand-chose à voir avec la littérature. Très franchement, je suis assez tranquille avec l'idée de la mort. C'est pas une idée qui m'inquiète beaucoup. J'ai même envie de vous dire, franchement, c'est un moment que je voudrais pas rater. Après vous voyez ce que je veux dire.
Après avoir réussi votre vie, c'est dommage de rater votre mort.
Oui. Oui, et c'est un moment que je ne voudrais pas rater. Franchement, j'aimerais bien ne pas être inconscient, parce que ce moment-là doit être inouï. Donc voilà, j'espère que le jour où ça m'arrivera, je pourrai profiter de ce moment.
Espérons que ce soit le plus tard possible. Le grand monde, Pierre Lemaitre le signe chez Calman Lévy. Des excuses à présenter, Daniel Morin?
Oui, déjà désolé pour tous ceux qui se battent au quotidien dans la lutte contre les sectes. Aujourd'hui, ils se sont pris une vilaine claque en entendant notre invité Pierre Lemaitre faire l'apologie des sectes. En même temps, on aurait pu s'en douter quand il est rentré dans le studio en toge avec une couronne fluo et une pancarte à la main qui disait « Vous m'appartenez tous ». Bon, mais on l'a pas vu venir. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Désolé les gars. Désolé pour tous les amoureux de la musique qui aujourd'hui ont été choqué par les propos de notre invité qui déteste la musique.
Mais incroyable,
toutes les musiques et par extension tous ceux qui aiment la musique et bien sûr tous les musiciens. De là à souhaiter la mort des animateurs télé qui font des programmes musicaux, il y a pas loin. Vas-y Nagui, barre-toi, je vais essayer de le retenir. Alors désolé pour tous ceux qui ont été déçus par le désamour de la musique de notre invité Pierre Lemaitre, mais qui se sont dit bon, ok, il aime pas la musique, c'est son droit. Et qui, au moment du deuxième choix musical, se sont dit, mais je vous de notre gueule, le maître! Il déteste la musique, 10 minutes plus tard, il change d'avis, il nous oblige à écouter ça. Et une horreur québécoise qui fait saigner les oreilles. Oh là là, je sais déjà, il est hyper étrange, Pierre Lemaitre, mais je suis pas sûr qu'on pourrait le qualifier de quelque chose. Si peut-être, romancier hyper dysfonctionnel. Désolé enfin pour nos auditeurs intègres qui ont été choqués par l'éloge de l'arnaque faite par Pierre Lemaitre. En même temps, les gars, si vous nous écoutez régulièrement, l'escroquerie, ça ne va pas vous choquer. Cette émission n'est qu'une vaste escroquerie.
Merci Pierre d'être venu.
Merci infiniment.
On en a dit assez pour donner envie.
Oui, écoutez, franchement, vous avez fait le job à ma place et je vous en suis infiniment reconnaissant.
Vous donnez envie de revenir.
Il y a 3 autres romans à suivre. Le Grand Monde.
Merci infiniment.
Avec plaisir. Le Grand Monde chez Calman Lévy, signé Pierre Lemaitre. Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Leïla Kadoroudadi, merci Daniel Morin. Heureusement, nous revenons demain, même heure, même adresse, avec Angèle.
Heureusement, là maintenant je suis à Bali, c'est sale, mais c'est loin.
Passez une bonne journée sur Inter.